Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans les années 60 et 70, bien avant Homeland et le Bureau des légendes, les télévisions américaines et britanniques ont produit des histoires d'espionnage. À cette époque, en créant du genre quelques-unes de ces séries cultes, comme on ne disait pas encore, les Anglais n'ont pas été les moins inventifs et talentueux, si l'on pense notamment aux Prisonniers avec Patrick McGowan, qui en était aussi le scénariste et le producteur. En 2008, sur les musiques de Jerry Goldsmith, Lalo Schifrin et Edwin Astley, avec Martin Winkler et Brigitte Gauthier, Eric Vera et Benoît Lagan nous replongeaient dans les 60s et 70s avec ces séries d'espionnage parfois fantaisistes mais sans prétention qui avaient pour titre Destination Danger, Chapeau melon et bottes de cuir, Des agents très spéciaux, Mission impossible ou encore Max la menace. Des séries cultes donc, que le cinéma revisitera d'ailleurs plus tard avec plus ou moins de bonheur. Série télé, L'Amérique en 24 épisodes, 6e volet, L'espion, le nouveau héros américain.
Bon, vite, faut que j'appelle. Faut que j'appelle Benoît, ouais. Benoît. Alors, Benoît. J'espère qu'il est là.
Oui, allô ?
Oui, c'est Benoît ?
Oui, oui, oui.
Ouais, c'est Eric.
Mais... Non, mais pourquoi vous m'appelez ?
Pour avoir des nouvelles de...
Non, mais je vous ai dit de pas m'appeler ici.
Non, mais Benoît, ça va, c'est parano, il y a des micros, quoi.
Faut qu'on se voit, je pense.
Non, mais moi, je voudrais parler à vous, savez, à qui vous savez.
Oui, je pense qu'il faut que l'on en parle. Là, je peux pas vous parler. Le mieux, c'est peut-être qu'on se donne rendez-vous.
Benoît, j'ai peur.
Non, mais... Le plus simple, appelez ma femme.
D'accord.
Vous appelez ma femme, sur son portable surtout. Vous l'appelez et vous lui demandez le code.
D'accord.
Voilà.
Le code.
Ouais. Il doit y avoir plusieurs chiffres et plusieurs lettres.
D'accord.
Ok. Mais surtout, ne me dérangez plus, là.
D'accord. Bon, j'appelle votre femme, alors.
Voilà. Je vais être obligé de vous laisser.
Non, Benoît, ne raccrochez pas. Non.
Mais vous avez fait quelle école d'espion, vous ? Allez, salut.
Non, ne raccrochez pas.
Benoît Lagan.
Eric Vera.
Série télé.
L'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 6.
L'espion, le nouveau héros américain.
This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim.
Alors, dans l'épisode précédent, Eric, nous avons abordé le monde du western, qui est le genre vedette tout au long des années 50 et au début des années 60. En 65, par exemple, on l'évoquait hier, débarque sur le petit écran un cow-boy aux allures d'espion, James West. Avec l'influence ciné d'un héros prénommé Bond, le western décline au détriment d'un nouveau genre plus porteur, celui de l'espionnage. En ce milieu des années 60, la série télé américaine va donc mettre en scène de nombreux héros en mission sur son propre territoire, mais aussi ailleurs, et l'espion apparaît bien évidemment comme le meilleur VRP des États-Unis, partout dans le monde entier. Mais ne restons pas, peut-être, Eric, uniquement sur le territoire américain et traversons un petit peu l'Atlantique, car si la télé américaine décide d'investir le monde de l'espionnage, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a James Bond au cinéma, mais aussi parce que les producteurs télé américains doivent faire face à un concurrent majeur, la télé britannique.
Ouais, alors c'est difficile de parler de séries d'espionnage sans jeter un œil sur la production anglaise. Ce qu'on peut dire, déjà, c'est que l'Angleterre, c'est un pays qui possède une télévision née... quasiment en même temps que son homologue américaine. C'est une télévision inventive, très vite soumise à la concurrence. Hein, très vite, il faut trouver des idées pour exister dans les sondages. Et bon, cette télé, elle va accoucher de plusieurs très grands chefs-d'œuvre de l'univers sériel. Donc on peut au moins en citer trois dans le domaine de l'espionnage.
Attendez, je vais les deviner. Destination Danger, Le Prisonnier et Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Vous avez vu mes fiches, hein, mais bon.
Alors, non, j'ai mes agents.
Chronologiquement, on peut dire que effectivement, Destination Danger, 1960, c'est le tout début des séries d'espionnage. Destination Danger met en scène John Drake, interprété par Patrick McGowan, on en reparlera plus tard. John Drake, un espion solitaire dont la classe préfigure un certain James Bond qui va exploser l'année suivante.
Oui, parce que James Bond au cinéma, c'est en 62 avec Dr. No, alors que John Drake, c'est un an auparavant.
Alors, Destination Danger, série solide qui va consacrer Patrick McGowan comme une star internationale. La série sera vendue dans près de 100 pays. La conséquence, c'est que Patrick McGowan, qui avait une idée depuis un moment, créer sa propre série, va pouvoir le faire à l'aide de ce statut de star. Donc il crée Le Prisonnier. L'année suivant la fin de Destination Danger, Le Prisonnier, summum de la série d'espionnage et paranoïaque. Alors bon, c'est une série qui est difficile à raconter, mais on peut peut-être quand même essayer. Donc la série commence avec la démission d'un agent secret. Bon, il est enlevé et il se réveille dans un village mystérieux, baroque, village qui existe vraiment au Pays de Galles, hein, s'appelle Portmeirion. Et donc la série tourne autour de l'interrogatoire de cet agent secret. On veut lui faire dire des choses, il sait même pas quoi. Et donc peu à peu, on va s'enfoncer dans quelque chose de réellement paranoïaque. Il y a plein de trouvailles, c'est très visuel et ça reste vraiment comme on va dire le sommet de la série paranoïaque.
Cet agent secret interprété par Patrick McGowan, c'est John Drake.
Alors, la concordance des dates veut effectivement que Destination Danger donc, se finit, et puis l'année suivante, Le Prisonnier commence, donc ça a fait dire à certains que ce prisonnier qui n'a pas de nom, ça serait John Drake, démissionnaire, qui aurait été envoyé dans cette prison à ciel ouvert, qui n'est pas tout à fait une prison, mais d'où on ne peut pas s'échapper.
In an attempt to escape from a world of secret agents and double dealing, Patrick McGowan finds himself imprisoned in a strange village. Why, how is told in this exciting new series, The Prisoner, starring Patrick McGowan.
Where am I?
In the village.
We start our election campaign today.
Elections? In this place?
Are you going to run?
Like blazes, the first chance I get.
I want to know what he had to sell and to whom he was going to sell it.
What do you want?
I am a free man!
Each man has his breaking point, you know. You are no exception. Ah, you react.
Don't miss this exciting series on this channel soon.
Parlez-moi de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, s'il vous plaît.
Donc, The Avengers en anglais, série tout à fait étonnante, hein, qui n'a pas vraiment d'équivalent.
John Steed, Tara King, Emma Peel.
Donc là, c'est une série qui oscille entre l'espionnage, le thriller, qui a beaucoup d'accents fantastiques. Hein. Alors, dans cette série, Patrick McNee incarne un impeccable John Steed, un agent british très classe, avec ses costumes Pierre Cardin. Et très vite, donc, il va faire ses enquêtes avec des compagnes. Hein. Donc, je sais que...
Mais Tara King, par exemple, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas la première.
D'accord, oui, ben non. Il y a eu Honor Blackman, par exemple. Et puis, moi, je pense surtout à Diana Rigg, hein, qui interprète Emma Peel.
Je vous reconnais bien là.
Espionne au physique félin, qui, on sait, avec ses petites tenues là, néoprènes, qui va engager une relation pleine de non-dits avec John Steed. Et sorti de ça, je pense que la série, elle a vraiment un timing très particulier, des dialogues très très bien écrits, une esthétique qui à l'époque vraiment tranche beaucoup. La variété des thèmes traités fait aussi que c'est une série qui n'a pas vraiment d'équivalent, même à ce jour.
Alors, nous avons rencontré Martin Vinclair, il est écrivain, médecin, éminent spécialiste des séries télé. Il est auteur, entre autres, d'un ouvrage très précis sur Mission Impossible. Il revient pour nous sur l'histoire de la série d'espionnage, mais aux États-Unis.
D'abord, il y a eu James Bond, il y a eu le Dr. No en 61, et puis les deux ou trois qui ont suivi. Et ça a eu un tel succès que la télévision, qui est quelque chose qui puise dans les succès ambiants, ne peut pas rater. La deuxième chose, c'est que on est dans la post-guerre froide, C'est-à-dire qu'on a suffisamment de distance pour savoir que la guerre froide n'est plus aussi menaçante qu'on y pensait avant 1960. Et aussi, on peut prendre du recul et s'en moquer. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de séries d'espionnage des années 60 contiennent une bonne part d'humour. À vrai dire, la seule qui ne soit pas une série dans laquelle il y ait de l'humour, c'est Mission Impossible. Mais l'humour, il y a un humour, mais qui est un humour noir. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de jouissance du spectateur quand l'équipe fait tomber le méchant. On est content, je dirais. On rigole parce qu'il s'est fait avoir. Mais c'est une série qui ne joue pas du tout sur l'humour. Au contraire, c'est une série qui joue sur le suspense. Mais Mission Impossible parle aussi des années 60 et elle parle de la CIA sans savoir qu'elle parle de la CIA.
Parmi les séries d'espionnage américaines, il y a bien évidemment des agents très spéciaux, Eric.
Oui, The Man from U.N.C.L.E. en anglais. La série, elle compte les aventures de deux espions américains, Napoléon Solo et Ilya Kuryakin, hein, qui a un accent russe dans la série. Deux agents qui travaillent pour une organisation fictive. C'est des espions, on va dire, plutôt dandy, hein, qui déjouent toutes sortes de complots, mais finalement très peu réalistes. Alors la série, elle se prend pas vraiment au sérieux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un humour pince sans rire, hein, qui la place un petit peu à l'écart des dialogues loufoques de Batman ou du second degré des Mystères de l'Ouest, hein, qui sont des séries, on va dire, à peu près contemporaine. La série va quand même durer 4 saisons, 105 épisodes. Et c'est vrai qu'elle donnera même une série dérivée, The Girl from U.N.C.L.E., mais bon, elle a marqué les esprits, surtout par son ambiance, hein, qui est vraiment une ambiance très 70s, très dandy.
Je peux raconter une anecdote à propos de David McCallum. David McCallum joue dans Agents très spéciaux, il joue l'agent Ilya Kuryakin, donc il parle avec l'accent russe. Et ils avaient un succès fou, ces deux garçons. C'était la série psychédélique et folle dingue des années 60, et les filles étaient folles d'eux. Et il se trouve que David McCallum joue actuellement dans une série très populaire aux États-Unis qui s'appelle NCIS, qui passe d'ailleurs sur M6 en ce moment. Et il joue le... Alors, mais évidemment, il a 40 ans de plus. Et il joue le médecin légiste. Et dans un épisode de la deuxième saison, je crois, la nouvelle arrivante dans l'équipe dit du personnage que joue David McCallum, elle dit Ducky, puisque c'est le personnage. Ducky, il devait être vachement beau quand il était adolescent. Et puis son patron lui dit, ouais, il était très très beau. Quelle tête il avait quand il était adolescent, demande la fille. Et le patron lui répond, il avait la tête d'Ilya Kuryakin. Bon. Ça, c'est pour dire que c'est très intéressant cette histoire, parce que ça veut dire que les acteurs de série, quand ils ont eu un certain succès, ils restent connotés à ce succès et ça rentre dans les scénarios. C'est-à-dire que il y a une mémoire. Ça c'est la grande différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, en Angleterre, on sait que les spectateurs ont une mémoire. On sait qu'ils se souviennent de tel ou tel personnage. On sait qu'ils se souviennent. On sait qu'ils ont une culture. Donc tous les scénarios puisent à la fois dans le passé culturel. Ils font du commentaire métatextuel sur la série elle-même. Ça ne peut être que le fait de gens qui ont une connaissance intime, d'abord, de ce qui se passe autour d'eux, et ensuite, qui ont une connivence extrêmement grande avec le spectateur. Alors, pour en revenir aux séries d'espionnage, il est bien évident que les séries d'espionnage des années 60, non seulement s'inspirent de la bandomania, mais surenchérissent dedans. Vous prenez, par exemple, Les Mystères de l'Ouest. James West s'appelle James. Il s'appelle James West parce qu'il est américain. Bon. Mais en plus, là-dedans, vous avez les gadgets. Il a des gadgets. Et ce qui est incongru, c'est que ça se passe au 19e siècle, à l'époque d'Ulysse Grant, juste après la guerre de Sécession. Donc, il puise dans un passé récent de la série qui est la guerre de Sécession. Donc, il parle de la guerre. Et quand il parle de la guerre, il parle forcément de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Bon. Ça parle du racisme, ça parle des Russes. Il y a des personnages russes, cosaques, qui s'amènent dans la Pampa, bon, dans les plaines de l'Ouest, etc. Bon. Donc il y a un humour et un décalage qui ne peut être apprécié que parce que précisément les spectateurs ont vu James Bond. Quand Mel Brooks fait Max la menace, Mel Brooks fait à la télévision ce qu'il va faire plus tard avec Spaceballs ou avec Le Grand Frisson ou avec des films comme ça, il fait une parodie de James Bond, c'est-à-dire il prend le type qui est le plus crétin possible et lui il arrive jamais à rien, c'est sa copine qui le sort le tir d'affaire, alors que dans les James Bond c'est l'inverse, avec des tas de gadgets invraisemblables. Bon. Donc on ne peut faire ça que si on connaît très très bien les autres. Et c'est ça la force des scénaristes américains. C'est pour ça aussi qu'il y a tant de séries, sur le même thème, apparent, qui sont très différentes.
Si nous n'avons pas de nouvelles aujourd'hui de l'agent 27, il faudra envoyer quelqu'un à sa recherche.
Croyez-vous qu'il a eu des ennuis, chef ?
99, nous sommes sans nouvelles depuis presque 3 mois maintenant.
Mais chef, vous savez bien que l'agent 27 déteste écrire des lettres.
Marx, la mission qui lui avait été confiée était vitale. Nous poursuivons Hans le chasseur depuis des lustres. Il s'agit là peut-être de la dernière chance.
Hans le chasseur ? Mais c'était pas un ex-nazi de haut rang ?
Mais il était selon les époques parfait nazi, communiste, vice-parrain de la mafia, et ensuite il est passé grand patron délégué chez Chaos.
Donc c'est sûrement un opportuniste, ce gars-là.
Oui ? Ah bien, faites-le monter tout de suite. Un envoi de l'agent 27. Ah, vous n'avez qu'à poser ça là. Bon, allons-y, il faut ouvrir cette caisse. Vous avez un tournevis ?
Le voilà, chef.
Max la menace, Eric avec
Don Adams.
Oui, la série Max la menace de Mel Brooks qui a raconté sur le ton de l'humour les aventures improbables d'un espion ridicule, une série qui compte 138 épisodes et qui a été diffusée sur 2 chaînes, sur NBC pendant 4 saisons de 65 à 69 et sur CBS en 1970. Alors pour la petite histoire, Eric, la seule chaîne qui ne diffusa pas la série Max la menace fut celle qui finança pourtant l'écriture du pilote, c'est ABC. Un pilote qu'elle refusa parce que les auteurs avaient prévu dans le script purement et simplement l'explosion de la Statue de la Liberté, parce que cette idée était considérée par ABC trop éloignée des valeurs américaines. Alors moi je me demande ce que diraient les censeurs aujourd'hui quand on voit qu'un film catastrophe sur 2 met en scène l'explosion de la statue.
Max la menace, c'est déjà un classique de la série comique, hein, avant d'être un classique de la série d'espionnage, donc signé Mel Brooks, qui joue déjà finalement tous les codes qui vont faire les succès de ses futurs longs métrages. Donc c'est quoi ? C'est la relecture des calés de signes qu'on connaît par cœur, hein, par exemple les méchants, c'est le Chaos, l'organisation qui s'appelle le Chaos, donc acronyme farfelu, des gadgets improbables, je pense à la chaussure...
La chaussure téléphone.
Oui, qui fait beaucoup de choses, notamment le téléphone, et puis la bêtise de Max, le héros, qui alors là, pour le coup, on est vraiment à l'opposé complet de James Bond.
Max la menace, série humoristique, The Man from U.N.C.L.E., série assez décalée. Pourtant, il n'y a pas que ça, et il y a notamment Mission Impossible, qui elle, pour le coup, n'est pas du tout humoristique. Martin Winkler nous en parle.
Bonjour, Monsieur Phelps. Dans 5 jours, très exactement, l'archevêque Gelvas, patriarche de Povia, doit nommer un régent pour succéder au roi mort récemment sans descendance. Cet homme, le général Envin Quezet, a fait serment que s'il n'était pas nommé régent, il s'emparerait du trône par un sanglant coup d'État. Si Quezet réussit, Povia, libre monarchie constitutionnelle, deviendra une dictature militaire. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à empêcher l'action du général Quezet. Comme toujours, si vous-même ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce document se détruira dans les 5 secondes. Bonne chance.
La base de Mission Impossible, c'est pas les mémoires d'un agent secret. La base de Mission Impossible, c'est un livre écrit par un grand escroc. C'est ce même livre qui a servi de base au scénario de L'Arnaque, de George Orwell. Donc vous voyez, L'Arnaque, Mission Impossible, même combat. Il s'agit en fait de monter une grande escroquerie, une petite ou une grande escroquerie, pour inciter quelqu'un à qui on veut prendre son argent, ça c'est pour L'Arnaque, ou qu'on veut tout simplement discréditer, ça c'est pour Mission Impossible, ou faire tomber. On veut l'amener à faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il sera discrédité. Bon, mais c'est une histoire d'escroquerie. Donc, étant une histoire d'escroquerie, ça nécessite quoi ? Ça nécessite des acteurs. Et en fait, Mission Impossible, c'est une métaphore de l'histoire d'une troupe de théâtre qui écrit ses scénarios, prépare ses décors, prépare ses costumes, avec des acteurs qui sont des acteurs qui ont des rôles interchangeables, mais pas forcément, qui prennent chacun leur rôle à tour de rôle, qui peuvent d'ailleurs, qui se soutiennent et qui montent un bateau. J'aime bien l'expression monter un bateau. Et on essaye de l'amener à soit à dire quelque chose qu'il sait et qu'il veut pas dire, soit à faire quelque chose qu'il veut pas faire. Simplement en le conduisant au bout de sa logique. Bon.
Cette femme est une usurpatrice. Je vous donne l'ordre de les arrêter.
Dans dans Mission Impossible, il y a un discours politique. Le discours politique, c'est, par exemple, il y a des politiciens corrompus, et il parle de politiciens corrompus américains, hein, ça, pas seulement de politiciens corrompus à l'étranger. Il y a aussi quelque chose de très clair sur le fait que, par exemple, certains pays de l'Est contiennent deux tendances. C'est-à-dire, il y a des progressistes qui ont envie de faire la paix avec l'Ouest, et puis il y en a d'autres qui veulent les guerres. C'était pas quelque chose qui était dit dans la presse, mais c'était quelque chose que les scénaristes hollywoodiens, qui ont toujours été à gauche, disaient. Il y a des gens qui ont envie. On parle pas de la Hongrie, mais on vous dit, il y a des pays de l'Est qui sont pas des pays aussi totalitaires que l'URSS voudrait le. Bon. Il y a un discours politique aussi sur le fait que les dictatures d'Amérique du Sud ont été financées par les financiers américains. Bon. Donc bien sûr qu'il y a des discours politiques. C'est pas le sujet. Donc ça passe en filigrane. Et quand moi je regardais ça évidemment quand j'étais gamin, je n'y voyais que du feu. Quand je les revois aujourd'hui, je vois à quel point c'était finement écrit et c'était impliqué. Mais encore une fois, quand vous avez derrière le scénario d'un épisode de série quelqu'un qui s'inspire de la réalité, qui puise dans la réalité, inévitablement, il va véhiculer ses idées, hein, il n'invente pas, il véhicule ses propres idées, son propre point de vue sur la réalité, et il dit des choses qui sont des choses... Il y a un épisode, voilà, il y a un épisode très typique de Mission Impossible qui s'appelle L'exécution, dans lequel, pour faire parler un tueur à gages, et pour lui faire dénoncer, ça se passe aux États-Unis, pour lui faire dénoncer son patron, son commanditaire, il l'attrape. Ils le font vieillir artificiellement, c'est-à-dire qu'ils lui grisonnent les tempes, etc. Ils lui collent un coup sur la caboche et des médicaments pour qu'il ait un peu une perte de mémoire. Et ils lui font croire qu'il est en prison, que 5 ans sont passés et qu'il va passer dans la chambre à gaz. Et il y en a... Donc, dans le local de la chambre à gaz, dans la prison, c'est tous des acteurs, hein, c'est tous des agents. Martin Landau joue le rôle d'un autre prisonnier qui passe à la chambre à gaz avant l'autre. Et donc, on le terrorise tellement... Il a tellement peur de mourir que... Et on vous montre une exécution en chambre à gaz. Et ils se sont documentés pour vous montrer une exécution en chambre à gaz. Et quand vous lisez ce que disent les scénaristes à Patrick White, qui est l'auteur du livre de référence sur Mission Impossible, quand il fait parler William Woodfield et Alan Balter de ça, Woodfield et Balter lui disent « On a écrit cet épisode parce qu'on était contre la peine de mort. » Bon. Donc, bien sûr qu'il y a un discours politique dans les séries. Il y en a toujours eu. Sauf que ce discours politique, évidemment, il est plus ou moins visible selon l'époque dans laquelle les choses se passent. Si vous regardez un épisode de Mission Impossible sans savoir ce que c'était que les années 60 et la guerre froide, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a comme allusion. Ou sans savoir que la peine de mort était un sujet débattu à l'époque, vous ne pouvez pas apprécier ce qu'il pouvait y avoir de connotation à l'époque.
Je ne saurais accepter le trône.
Pourquoi ?
J'ai peu de force et suis avancé en âge. Et je suis aveugle. L'avenir de notre pays ne peut pas reposer sur moi. Il doit être confié à un être jeune qui saura le conduire sur le chemin du progrès. Je désire donc que son éminence, Monseigneur Gelvas, choisisse celui qui régnera sur Pavia. Et je désire que son choix soit accepté de vous tous. Tel est le vœu que je forme aujourd'hui. Qu'il en soit fait selon ma volonté.
Ce qui me fascinait le plus personnellement quand j'étais gamin, c'était ce qu'on appelle en anglais the plot, c'était la machination. The plot en anglais, c'est à la fois la machination et le scénario. Le même mot désigne les deux choses. Et la façon dont ils embobinent un type en posant leurs pièces comme ça, et qui plus est, et moi c'est ça aussi que je trouvais fascinant, qui plus est, il le faisait sans vous expliquer ce qu'il faisait. Il vous le montrait et il vous faisait confiance pour comprendre. Et il n'y avait pas de série à l'époque qui faisait ça toutes les semaines, c'est-à-dire qui partait du principe que leur public était intelligent, était attentif et allait tout comprendre à la fin sans qu'on ait... C'est une série très peu bavarde, Mission Impossible. Le plus souvent, les dialogues sont des dialogues qui sont des dialogues de faux-semblants faits à l'intention du méchant qu'on veut embobiner. Ils n'ont donc strictement aucune valeur psychologique pour les personnages puisque c'est juste un rôle. D'ailleurs, on voit des acteurs en train de jouer un rôle et on sait qu'ils sont en train de jouer un rôle. Et pourtant, ils arrivent à vous embobiner le type de telle manière que vous êtes pantois. Et moi, c'est ça que je trouvais extraordinaire. Et c'est ça, si vous voulez, qui a formé mon goût pour les séries. C'est que plus l'épisode était bien écrit et plus il était réussi.
Two blanks, Roland. With the third shot, you're on your own.
is the enclave. It's completely surrounded by mountains. This is a road, it's the only way in or out.
Le personnage que je préférais, c'était Rollin, parce que Rollin, il est à la fois celui qui change de visage constamment, c'est le caméléon, et puis celui qui s'est puis fait ça avec un grand sourire, et puis il peut changer de personnalité. Il y a un épisode qui s'appelle Princesse Céline, où il est déguisé en vieux professeur, il est assis sur un banc dans une église dans laquelle il y a une cérémonie, et il change de personnalité rien qu'en enlevant des bouts de son vêtement et en enlevant ses faux favoris, etc. Il reste assis au même endroit. Quelqu'un qu'il a vu sous une personnalité à un moment donné, puis qui s'est détourné, retourne et il voit quelqu'un d'autre. Ça, c'est moi, je trouve ça... Ou bien il incarne un type simplement en enlevant sa veste et en relevant ses manches de chemise, et il change de position, il se voûte et il devient quelqu'un d'autre. Bon, donc ça, c'était le personnage que j'appréciais le plus, parce que c'est le personnage... de l'acteur et du prestidigitateur en même temps, du transformiste. Pour moi, c'est le personnage symbolique de Mission Impossible.
La description que vient de faire à l'instant Martin Winkler de Rollin Hunt, interprété par Martin Landau dans Mission Impossible, ouais, ça me fait penser curieusement à un personnage féminin d'une série beaucoup plus contemporaine et dont nous écoutons en ce moment, Eric, le thème du générique. C'est la série Alias. C'est une production qui a signé J.J. Abrams, qui signe aussi la musique de l'indicatif, et qui raconte les aventures de l'héroïne Sidney Bristow, qui change sans cesse d'identité et de personnalité au gré de ses missions.
Oui, justement, dans Alias, le générique change de saison en saison, mais il y a le générique d'une des saisons qui est vraiment significatif par rapport à tout ça.
Oui, la saison 4, et j'ai compté pour vous, Eric, en 25 secondes de générique, on voit Sidney Bristow dans plus de 50 tenues différentes, donc ça c'est un clin d'œil d'Abrams, et ce n'est pas le seul, à Rollin, l'un des héros de Mission Impossible. Il faudrait des heures, Eric, pour raconter et dire en quoi Alias est un petit bijou télévisuel, quoi qu'il en soit. On peut toutefois voir dans Alias une sorte de Mission Impossible, revue et corrigée par un créateur qui a baigné toute son enfance et son adolescence dans l'univers du jeu vidéo, de la BD et bien évidemment de la série télé. C'est en gros une version de Mission Impossible ultra contemporaine qui a digéré toute une somme d'influences pop culturelles.
Ouais, une série qui s'amuse aussi avec les codes historiques de la série d'espionnage post-guerre froide, auquel Abrams ajoute ceux de l'ère post-11 septembre avec Alias.
Il y a 7 ans, j'ai été recruté par le SD6 qui m'a été présenté comme une division secrète de la CIA. J'ai appris tout ce qu'un espion doit savoir, y compris de ne jamais révéler ce que je faisais. Je croyais travailler pour les gentils, jusqu'à ce que je parle du SD6 à mon fiancé, et qu'il le fasse tuer. C'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Le SD6 est précisément l'ennemi que je pensais combattre. Aujourd'hui, je suis un agent double. Je travaille avec la vraie CIA afin d'éliminer le SD6, où mon unique allié est un autre agent double. Un homme que je connais à peine, mon père.
Durant la guerre froide, il semble que 6 armes nucléaires opérationnelles aient été introduites et enterrées aux États-Unis.
Quand le SD6 a récupéré le joujou, il l'a immédiatement envoyé en Égypte.
Quoi ?
Ils l'ont vendu à Hineni Hassan.
Tu vas au Caire, d'après ce qu'a dit Devlin.
Oui, il faudrait que tu m'aides. Le SD6 ne doit surtout pas savoir où je vais.
Eric, lorsque nous nous sommes rendus chez l'universitaire Brigitte Gauthier à Lyon, elle est professeure de civilisation anglo-saxonne, nous avons vu dans son salon les DVD des aventures de l'espionne étudiante Sidney Bristow. Elle nous livre son sentiment sur la série.
Vous parliez d'Alias, là, qui est derrière moi. Alors, Alias, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement brillant, mais c'est techniquement, magnifiquement fait, avec des génériques internes carte postale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce personnage de femme espion est lancé dans une nouvelle opération, elle est envoyée à l'intérieur d'un épisode sur une moyenne de 3 lieux géographiques et on commence par la voir déguisée en petite nymphette en Angleterre, en joyeuse SM si on est à Berlin et en universitaire à lunettes, si on rentre dans les milieux scientifiques ou techniques, etc. C'est-à-dire, elle a ce côté caméléon qui capte l'image parfaite de la mode d'un lieu et d'un moment, qui est extrêmement bien fait. Et ça veut dire qu'en une image, on sait dans quelle ville on est.
Alors Alors on peut se demander ce qu'est la série d'espionnage aujourd'hui aux États-Unis. Alors hormis Alias dont vous venez de parler, on peut citer 24 heures chrono, hein, Sleeper Cell, qui pour moi représente d'intéressants compromis entre une certaine vision de l'univers du renseignement, et j'ai pas parlé de réalisme, hein. Ce sont aussi des fictions extrêmement calibrées avec des coups de théâtre incessants, et on reparlera de ces deux séries dans notre émission sur l'après 11 septembre. Celle qui mérite, je pense, vraiment le titre de série d'espionnage la plus actuelle, c'est incontestablement une série britannique, c'est MI5.
Oui, parce qu'on a commencé avec les séries britanniques dans les années 60, on y revient là.
MI5, c'est une série aux antipodes d'Alias, hein, qui s'inscrit dans le réalisme, qui contribue d'ailleurs à l'ambiance souvent très réussie des séries britanniques. Les Anglais, comme c'est la tradition, ils n'ont pas peur de traiter de questions d'actualité vraiment brûlantes, hein. Et ils ont même parfois des questionnements politiques très très musclés. Et ici, on est dans un aspect passionnant de la série en général, c'est de s'adresser au très grand public, mais avec des questions très pointues, et donc en le prenant pour quelqu'un d'intelligent.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Prise de son, Sarah Weinberg.
Mixage, Pierre Mine.
Réalisation, Lionel Quentin. Bonne nuit.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 29 juillet 2008, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.